Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'exposition universelle de Dubaï aura finalement bien lieu. Dubaï 2020 ouvrira ses portes au mois d'octobre, avec un an de retard en raison de la crise sanitaire, mais en gardant son nom originel. Notre confrère de la rédaction, Nicolas Falaise, a pu se rendre sur le site de l'exposition. Il nous en propose une visite guidée avec un responsable de l'organisation. Il nous propose également une analyse des enjeux politiques et diplomatiques de cette exposition pour la Fédération des Émirats Arabes Unis, à laquelle appartient Dubaï. En seconde partie d'émission, nous retrouverons la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Elle a conservé son nom, Expo 2020. Mais l'exposition universelle de Dubaï a été reportée d'une année en raison de la pandémie du coronavirus. Elle doit donc ouvrir ses portes le 1er octobre prochain pour se tenir jusqu'en mars 2022. Dubaï, rappelons-le, est l'un des 7 émirats qui composent la Fédération des Émirats Arabes Unis. C'est la ville la plus peuplée de la fédération. Dubaï s'en veut d'ailleurs la vitrine moderne. Toute la question est de savoir si la ville-État va réussir son ambitieux rendez-vous avec le monde malgré la pandémie. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour Éric Bataillon.
En reportage aux Émirats Arabes Unis, vous avez pu vous rendre sur le site de l'exposition Dubaï 2020. Alors, si nous commencions par une visite, Nicolas.
Ah oui, je vous propose de monter en voiture avec Mohamed Al-Ansari, émirien. Il travaille au sein de l'équipe de l'Expo Dubaï 2020. Avec lui, nous circulons entre les pavillons qui représenteront les pays ou les grands thèmes de cette exposition universelle. Il a fallu des années de travaux pour faire sortir de terre ces bâtiments dont certains sont des prouesses architecturales. Il a fallu aussi créer des infrastructures, routes et métros pour desservir l'ensemble. Voilà, nous y sommes.
If you see the big massive structure there, that's the sustainability pavilion.
Vous voyez la grande structure assez massive ici? C'est le pavillon de la durabilité. C'est un bâtiment qui produit autant d'énergie et d'eau qu'il en consomme. Il peut produire ses propres besoins en énergie et il peut produire ses propres besoins en eau. Vous voyez les panneaux solaires sur le sommet? Ils produisent de l'énergie à partir du soleil pendant la journée. Et à côté, vous voyez ces jolies structures colorées en forme de cône? C'est le pavillon de l'Espagne. Il fait partie du secteur de la durabilité. Et la forme de ces structures permettra de maintenir une température douce pour les visiteurs lorsqu'ils viennent.
And those cone structures are going to help make the weather even better and smoother for the visitors when they come.
Alors vous l'avez compris, il y a les pavillons des pays et des pavillons qui seront dédiés au grand thème de cette exposition universelle, parmi eux la durabilité ou encore la mobilité. L'idée des expositions universelles est la même depuis le milieu du 19e siècle. Il s'agit de présenter des innovations technologiques, scientifiques, industrielles ou des créations artistiques, notamment architecturales, que chaque pays participant souhaite mettre en avant.
Et tous les pays seront-ils représentés, Nicolas ?
Pas tous, on va y revenir, mais les organisateurs annoncent une participation assez impressionnante avec environ 190 pays représentés sur le site.
Oui, on comprend que le site est immense, mais que va-t-il devenir quand les portes de l'exposition universelle se refermeront en mars 2022 ?
Question qui se pose toujours après une exposition universelle. Faut-il ou non démonter la Tour Eiffel? C'est le débat qui a fait rage après l'exposition universelle de Paris en 1889. Alors pour l'Expo Dubaï 2020, voici la réponse de notre guide Mohamed Al-Ansari.
Ce qui est aussi unique avec ce site, c'est que son héritage a bien été pensé pendant la construction. Donc 80% de ces bâtiments vont rester. Beaucoup seront réinventés, réaménagés. Le lieu s'appellera District 2020 et doit devenir une cité de l'avenir.
Cette exposition universelle a été décalée d'un an pour cause de coronavirus. Nicolas, qu'est-ce qui garantit qu'elle pourra avoir lieu en 2021 et que le public surtout pourra se rendre sur place dans quelques mois pour découvrir ce lieu et tout ce qu'il est prévu d'y organiser ?
Alors, c'est l'incertitude qui plane encore sur l'événement. Oui, l'émirat de Dubaï est actuellement ouvert aux voyageurs. Oui, les Émirats Arabes Unis, c'est l'un des pays qui progresse rapidement dans la vaccination de leur population. Mais cela suffira-t-il à remplir les objectifs? Quel sera le paysage du tourisme, du transport aérien dans 6 mois? Personne ne le sait. Mais les organisateurs veulent y croire et maintiennent leurs objectifs, comme l'explique Mohamed Al-Ansari.
Nous sommes prêts à accueillir quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Nous avons envisagé 25 millions de visiteurs, mais nous vivons dans un monde de changement. Notre objectif, c'est l'impact, nous assurer que ce qui a été bâti ici aille vers le monde. Et je pense que c'est un magnifique défi à relever. Ce sera l'un des premiers méga événements organisés dans la période que nous traversons actuellement.
One of the first mega events that is going to happen during the time that we're living here today.
Au-delà de ces incertitudes, Nicolas, qu'est-ce que cette exposition universelle nous dit de Dubaï et de la Fédération des Émirats Arabes Unis, un pays de plus en plus actif sur la scène internationale?
Sur la scène internationale et même au-delà, puisque les Émirats Arabes Unis ont envoyé une sonde en orbite autour de la planète Mars il y a quelques semaines, le long des axes routiers de Dubaï, d'immenses affiches célèbrent cet exploit scientifique, une première pour le monde arabe. Et cet événement spatial, tout comme l'expo, en dit long sur la volonté de cette monarchie du Golfe d'afficher ses progrès, ses réussites et ses ambitions. Écoutez ce que nous dit Rim Al-Hashimi, ministre d'État au sein du gouvernement des Émirats Arabes Unis et également directrice générale de l'Expo Dubaï 2020.
Nous voulons un Moyen-Orient qui s'éloigne des conflits. Regardez les gens dans cette pièce aujourd'hui. Nous sommes au moins 5 ou 6 nationalités différentes. Ce cosmopolitisme, ce multiculturalisme est indissociable de notre vision du monde. Et nous ne voulons pas que nos différences nous tirent en arrière. Nous croyons en la dignité de tous pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. C'est pour cela que nous avons envoyé la sonde Hope sur Mars pour démontrer à tous les Arabes que nous pouvons choisir la science, une approche basée sur les faits. C'est pour ça que nous organisons cette exposition qui rassemble le monde entier pour parler de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous sépare.
Alors il y a ce discours tourné vers la paix et vers le progrès, mais il n'a pas été possible de surmonter toutes les tensions régionales.
Effectivement, dans les allées de l'exposition universelle, on cherchera en vain le pavillon du Qatar. Cette autre monarchie du Golfe sera absente de l'événement. C'est la conséquence de la brouille qui a profondément divisé les pays du Golfe ces dernières années. On se souvient que les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et l'Égypte ont boycotté le Qatar à partir de 2017, l'accusant de soutenir des mouvements extrémistes dans la région et d'être trop proche de l'Iran. Alors depuis quelques semaines, la réconciliation est officiellement en marche entre le Qatar et ses voisins, mais il reste de la méfiance.
Méfiance et aussi rivalité ?
Absolument, n'oublions pas que le Qatar organise lui aussi un méga événement prochainement, la Coupe du Monde de football 2022. Pour les deux riches monarchies de la péninsule, Émirats Arabes Unis et Qatar, il y a un enjeu d'image, d'influence. À chaque fois, c'est un pari très ambitieux d'accueillir des millions de visiteurs pour ces événements qui jamais auparavant ne se sont déroulés dans la région. La concurrence entre les deux pays s'exprimera à coup sûr dans le succès ou dans l'échec de l'Expo 2020 comme du Mondial 2022.
Pas de pavillon du Qatar donc pour cette exposition universelle aux Émirats Arabes Unis, mais un pavillon israélien.
Oui, Israël et les Émirats Arabes Unis ont normalisé leurs relations l'année dernière en signant ce qu'on a appelé les accords d'Abraham. Il y aura donc un pavillon israélien à Dubaï, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Israël avait été invité et avait répondu présent avant même d'établir ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis.
Nicolas, y a-t-il une place pour l'Afrique dans cette exposition universelle ?
Une place inédite dans l'histoire des expositions universelles, puisque tous les pays africains seront représentés, ainsi que l'Union africaine en tant qu'organisation. Et là encore, on peut y voir un lien avec la politique internationale des Émirats Arabes Unis, qui sont très actifs sur le continent, notamment dans la Corne de l'Afrique. On écoute ce qu'en dit Rim Al-Hashimi, ministre d'État des Émirats Arabes Unis et directrice générale de l'Expo Dubaï 2020.
Chaque pays africain disposera de son propre pavillon, de son propre espace et de la possibilité de faire entendre son récit, sa thématique, au sein de ses 230 mètres carrés. Donc pour nous, c'est une occasion unique d'accueillir tous nos frères et nos sœurs du continent africain et de leur dire « Voici votre plateforme pour 6 mois, nous vous donnons le micro et vous allez partager votre histoire avec le monde. »
Un mot, Nicolas, de la France et de son pavillon.
Alors, il aura pour thème la lumière et il ne serait pas étonnant qu'Emmanuel Macron se déplace à Dubaï pour inaugurer ce pavillon français début octobre. Les Émirats arabes unis et la France sont des alliés très proches. On peut rappeler que quelques mois seulement après son élection, Emmanuel Macron s'était rendu dans ce pays pour inaugurer à l'époque le Louvre à Abu Dhabi.
Merci Nicolas Falaise. Votre reportage Dubaï 2020.
Merci Eric.
L'exposition universelle ouvrira ses portes au public le 1er octobre prochain pour ne se refermer qu'en mars 2022.
Orion Hebdo sur RFI.
Back and side to side. On the boat. Now the waters rise. On the boat. I'm just in the sky. On the boat. Now the waters rise. On the plank for the lost I die.
Notre rendez-vous du samedi avec la presse régionale. Nous retrouvons Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une, bien sûr, Michel Paul, les tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement israélien.
Éric, les pronostics vont bon train et à ce stade, les deux options les plus retenues par les commentateurs sont soit de nouvelles élections, les cinquièmes, ou alors un gouvernement d'ultra-droite reposant sur une courte majorité. Pendant ce week-end, une série de rencontres politiques pour tenter de trouver une solution à cet imbroglio politique. Les journaux de cette fin de semaine tentent d'analyser le discours de Mansour Abbas, le chef du parti islamique RAM, désormais couronné du titre de « faiseur de roi ». Prudent, il proclame « je ne rejette personne, je n'appartiens à aucun bloc politique, ni à droite, ni à gauche ». Les réactions de la droite religieuse sont mitigées. Israël Hayom, le journal proche du pouvoir, pense malgré tout qu'une coalition de droite est proche. Dans Ma'ariv, un commentateur parle d'un renversement de la position traditionnelle des Arabes israéliens. Et pour le spécialiste de politique interne de Yediot Aharonot, les secondes élections étaient tragiques, les troisièmes une farce, les quatrièmes sont devenues une sorte de feuilleton télévisé. Et à retenir cette petite phrase de Benny Gantz, le rival du Premier ministre au sein même du gouvernement, Benjamin Netanyahou mène Israël au bord de la guerre civile et peut-être même au-delà.
Notons que demain, nous reparlerons de cette situation politique avec l'historien Thomas Vescovi, qui publie cette semaine, fort à propos, un très bon livre sur les gauches israéliennes et ce qu'il en reste aujourd'hui. Autre élection à venir, celle-là, Alexandre, les législatives palestiniennes, source de divisions et de tensions et aussi objet de nombreux articles et analyses dans vos journaux.
Oui, et à l'origine de la tension, selon les journaux, les dissensions croissantes au sein du Fatah, qui est la principale formation de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, une OLP qui est dirigée par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une guerre de succession au vieux leader de 85 ans a discrètement commencé depuis des années, mais a éclaté au grand jour à l'occasion des législatives. Yasser al-Qadwa, le neveu de Yasser Arafat, le fondateur du mouvement, a contesté de plus en plus ouvertement Mahmoud Abbas, ce qui lui a valu d'être exclu du Fatah, indiquent les journaux. Il souligne que cette querelle a pris une dimension beaucoup plus importante avec l'arrivée de Marwan el-Barghouti, ce membre dirigeant du Fatah, condamné à la prison à vie par Israël, a formé une liste commune avec al-Qadwa contre la liste officielle des fidèles de Mahmoud Abbas. Et même si Barghouti ne figure pas sur cette liste, des analystes estiment qu'il se réserve pour l'élection présidentielle contre Mahmoud Abbas.
Puis la presse arabe garde également à l'œil un autre foyer de tension, Alexandre, les eaux du Nil et cette mise en garde égyptienne à l'Éthiopie.
Oui, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi qui a déclaré qu'il n'acceptera pas que le peuple égyptien soit privé de la moindre goutte d'eau et qu'il avait les moyens d'agir pour empêcher une telle éventualité. Une menace à peine voilée contre l'Éthiopie qui s'apprête à procéder au second remplissage du barrage de la Renaissance construit sur le Nil Bleu, principale source d'eau de l'Égypte. Une Éthiopie qui refuse tout accord contraignant avec l'Égypte et le Soudan. Les journaux notent qu'au lendemain de cette mise en garde, le Caire et Khartoum ont procédé à des manœuvres aériennes communes au Soudan. Le Soudan qui a déjà eu une série d'escarmouches à la frontière avec l'Éthiopie. Pour tenter d'éviter un risque de conflit, l'Union africaine cherche à relancer les négociations à l'arrêt depuis des mois.
Michel Paul, l'autre grand sujet couvert par la presse israélienne, c'est bien entendu la lutte contre la pandémie.
Oui, et les nouvelles sont plutôt bonnes sur le front du coronavirus. Selon le portail d'information Ynet, le nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux ces derniers jours est proche de zéro. Plusieurs unités de lutte contre le Covid-19 ont d'ailleurs déjà fermé leurs portes. On craint cependant que les excès de la fête de Pessah, la Pâque juive, provoquent une remontée du virus. Selon Mariv, la semaine prochaine, les autorités sanitaires israéliennes pourraient décider que le port du masque dans les lieux publics n'est plus obligatoire. D'autres allègements pourraient être décrétés. Les médias indiquent également que le ministère israélien de la Santé prépare une nouvelle campagne vaccinale, cette fois pour les adolescents de 12 à 16 ans.
Et en bref, Michel, d'autres informations évoquées dans vos journaux.
Dana, ce n'est pas son vrai nom, mais pour la première fois, une ex-agente du service action du Mossad parle de sa routine quotidienne. Dans la partie magazine de Yediot Aharonot, elle explique comment pénétrer dans des sites ultra-gardés, quelles sont les technologies utilisées par les services secrets. Un vrai roman d'espionnage, Eric. Dans la presse de ce week-end également, le 10e anniversaire du système antimissile Dôme de fer. Il a sauvé des vies en Israël, fait remarquer l'auteur de l'article, mais a aussi permis d'éviter des opérations militaires israéliennes à Gaza, estime-t-il. Et puis, Eric, à quelques jours de la journée commémorative de la Shoah, un article qui relate 60 ans après les dessous de la capture et du procès d'Adolf Eichmann, le responsable de la logistique de la solution finale.
Alexandre, le défilé dans les rues du Caire des momies royales pharaoniques est à la une de la presse égyptienne.
Oui, et il s'agit de 22 momies de rois et de reines d'Égypte qui vont quitter le musée égyptien de la place Tahrir pour le nouveau musée de la civilisation situé au sud du Caire. L'occasion de faire une grande parade avec coups de canon, défilé festif et chants et danses. Le tourisme, même s'il est encore poussif, reprend graduellement dans une Égypte qui ne confine pas et se contente des gestes barrières face au coronavirus.
Pour conclure, Michel Paul, votre image de la semaine.
Eh bien, ce sont des photos de la traditionnelle fête de la Mimouna qui marque la fin de la semaine de la Pâque, célébrée cette année en présentiel grâce au vaccin.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. On se retrouve demain pour évoquer donc l'histoire des gauches israéliennes avec l'historien Thomas Vescovi. Dans un instant, le journal. Portez-vous bien.
Religion du monde, Geneviève Delrosier.